Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sérov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller bien au-delà de Montpellier, à Sète, Gignac, Saint-Tibéry, Lunel ou Agde, et entre autres, nous allons emprunter les chemins du vivant. Les chemins du vivant, c'est une centaine de rendez-vous dans 80 lieux. Pour nous servir de guide dans cette effervescence, j'ai invité Nicolas Dubourg. Nicolas Dubourg, vous êtes le directeur artistique de la structure qui a tracé ces chemins. Elle s'appelle M28. C'est la perpétuation de l'ample démarche collective de candidature de Montpellier au titre de capitale européenne de la culture pour 2028. M de Montpellier plus 2028, ça donne M28. Depuis 2004, vous êtes aussi le directeur du théâtre La Vignette, dont vous nous parlerez aussi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et pour commencer, une petite question sur votre parcours. Lors de vos études, vous avez obtenu deux masters, l'un d'économie politique, l'autre de sciences politiques. Et voilà que vous avez choisi de travailler dans la culture. Pourquoi cet engagement ou cette orientation ?
Comme je le dis souvent aux étudiants que je croise, puisque j'ai la chance de travailler dans un théâtre dans une université, à Paul Valéry, pour moi, les études, c'est avant tout un espace et un temps dans lequel on peut se cultiver,
ouvrir
des horizons, réfléchir à des grandes questions. Et moi, j'ai toujours été intéressé par les questions qui sont pourquoi on vit dans le monde dans lequel on vit, pourquoi il y a ces inégalités que chacun peut constater, pourquoi il y a ces injustices, etc. C'est des questions que je me pose depuis tout petit. Et puis, j'ai eu besoin ensuite de faire un métier qui était plus en rapport avec mon désir, et ce désir-là, c'était celui de l'art. Donc, assez voilà. Naturellement, j'ai glissé vers mon désir.
Voilà. Et avec un fond, vous voulez interpréter comme ça, d'intérêt pour la chose publique quand même, hein, pour les enjeux.
Oui, fondamentalement, hein, je travaille dans ce qu'on appelle le service public des arts et de la culture depuis le début, et ça va continuer.
Très bien. Alors avant d'évoquer ce que ça conduit au micro de divergence, racontez-nous votre Montpellier. Vous le savez, avec ce fil conducteur, d'émission en émission, à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités par petites touches successives. Nicolas Dubourg, quels sont les lieux de Montpellier que personnellement vous aimez particulièrement et que vous recommandez à vos amis de passage, qu'ils soient connus ou pas ? Je parle des lieux et pas des amis.
Alors moi, je dirais que ce sont tous les lieux dans lesquels on peut profiter de quelque chose qui est assez exceptionnel ici, c'est la lumière. Pour moi, Montpellier, c'est évidemment la lumière méditerranéenne, l'été. Puis là, on est au mois de septembre, on voit que le soleil est en train de baisser à l'horizon et la lumière est en train de se bleuter. Et pour moi, l'endroit le plus beau pour en profiter, c'est évidemment la côte et en particulier... je pense aux plages qui commencent à Villeneuve, les Maglones, et puis qui se poursuivent comme ça jusqu'à Frontignan, qui sont des espaces un peu sauvages encore.
Avec à la fois les étangs et les plages.
Exactement. Et moi, c'est vraiment les yeux.
Qui peuvent aussi inspirer des peintres.
Exactement, que je préfère ici.
Très bien. Et alors, deuxième question, selon vous, qu'est-ce qui singularise Montpellier parmi les métropoles? En quoi notre ville se caractérise-t-elle?
Alors ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec M28. On s'est dit, mais au fond, quand on veut présenter une candidature de capitale européenne, le jury, tout le monde nous dit, il faut que vous partiez de l'identité de la ville. Et on a cherché son identité culinaire, on a cherché son identité artistique, on a cherché son identité linguistique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on essayait de rentrer dans la question de cette manière-là, pour essayer de figer les choses, on n'y arrivait pas. Et si on regarde l'histoire de Montpellier, puis plus de 1000 ans finalement, c'est l'histoire d'un carrefour. Montpellier s'est situé sur une route comme toutes les grandes villes. Hein. Ce sont les grandes routes qui définissent l'endroit où à un moment donné il y a des personnes qui s'arrêtent. D'abord ils prennent la route, puis à un endroit ils s'arrêtent. Et ils choisissent de s'arrêter à un endroit. Et Montpellier, c'est un endroit où des routes se croisent, des routes qui sont des routes historiques, qui sont liées à Rome, par exemple, mais aussi qui sont liées à la religion, qui sont liées au passage du sud vers le nord, et pas simplement de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est. Donc c'est vraiment un endroit où se sont croisées des religions, des langues, des cultures.
D'où un brassage.
Un brassage qui est énorme et qui dure depuis plus de 1000 ans. Voilà. Et c'est vrai que quand on parle avec des gens qui vivent ici, souvent, il y en a quelques-uns qui ont tenté d'appeler ça les barons de Caravette, mais finalement, moi qui habite ici depuis quand même plusieurs décennies, j'ai pas l'impression qu'ils s'en revendiquent tant que ça. Certains s'en revendiquent.
Oui, parce qu'il y a un côté, comment dire, patrimonial, peut-être un peu refermé. Hein.
En tout cas, c'est quelque chose qui n'apparaît pas en dehors de la fête qui leur est dédiée comme étant centrale, il me semble, dans la vie de Montpellier. Montpellier, c'est des Montpelliérains. Quand on leur demande d'où ils viennent toujours d'ailleurs. Et souvent, d'ailleurs, ils disent qu'ils n'ont pas forcément vocation à rester définitivement là. Donc, ils vivent la ville. Pour moi, Montpellier, c'est ça, c'est une pulsation. On y arrive, on se nourrit des rencontres qu'on y fait, et puis on repart.
Très bien. Alors, faisons ça au chemin du vivant, mais d'abord, petit retour en arrière. Décembre 2023, échec de Montpellier au profit de Bourges dans la conquête du titre de capitale européenne de la culture pour 2028. Alors, vous étiez dans l'équipe qui a beaucoup, beaucoup travaillé, mais qui va continuer à le faire, on va en parler. Mais quelle est votre analyse de ce résultat et de la manière dont l'Union européenne a évalué l'offre que vous avez contribué à élaborer?
Alors déjà, nous, on est parti très tard. On a commencé la candidature là où certains, comme Clermont-Ferrand, Bourges, ont commencé très, très en amont. On s'y est mis corps et âme, et la première surprise, c'est qu'on a été sélectionné pour continuer. C'est-à-dire, on a été dans la présélection avec quatre autres. Enfin, on était quatre villes dans cette présélection. Donc, on a eu quelque part déjà une grande satisfaction.
Alors, je vous arrête parce que cet état de fait, les conditions dans lesquelles l'Europe a acquiescé au projet. C'est mal connu, je pense. On s'en tient au cœur de la demande et au niveau principal, je dirais, de la compétition. Mais il y a eu, voilà, d'autres ouvertures qui, de même coup, pouvaient se présenter.
En tout cas, c'est un travail énorme. Il faut vraiment se plonger dans un dossier. On a été avec Sophie Léron à découvrir ce qu'était une candidature. Et on a fait un choix assez radical, puisqu'on a décidé d'y aller sans faire ce que font beaucoup de villes, c'est-à-dire de passer par des expertises, souvent qui sont liées à l'Union européenne, avec des experts.
Des cabinets, machin, des
voilà, exactement. Trucs. Nous, on a dit, on va y aller parce qu'on pense qu'on est. On veut être dans notre identité. Et on a envie de vraiment promouvoir ce territoire.
En considérant, je vous coupe, qu'il y avait des capacités interne.
Il y avait des capacités très fortes.
L'équipe, bien sûr, et au-delà.
Voilà, et qu'il fallait les connaître.
Qui permettait d'avoir le socle sur lequel la candidature pouvait se construire.
Exactement. Il fallait connaître cette capacité, en avoir la conviction. Et donc, on s'est lancé dans cette première étape qu'on a passée. Et on a ensuite atteint le deuxième rang, donc cette fameuse finale. Et à l'issue de cette finale, on a eu des rapports. Qui ont expliqué pourquoi le choix s'était porté sur Bourges et pourquoi ils avaient préféré ne pas sélectionner Montpellier. Moi, je dois vous dire, à la lecture, alors c'est forcément très subjectif et un peu orienté.
On le prend comme tel.
Voilà, c'est que quand je lis le rapport, j'ai l'impression d'avoir un rapport dans lequel on nous dit « voilà les raisons pour lesquelles il faut choisir Montpellier ». Or, la conclusion, c'est « et nous avons choisi une autre ville ». Parce que dit ce rapport ? C'est qu'on avait un dossier qui était solide, tant sur le plan structurel, économique, organisationnel, artistique évidemment. Et puis le reproche qui nous était fait finalement, c'était « vous n'êtes pas assez européen ». Mais nous précisément, c'est pour ça qu'on voulait être une capitale européenne de la culture, c'était pour renforcer nos liens à l'Europe et faire en sorte que les institutions culturelles en particulier s'ouvrent à l'Europe, découvrent l'Europe et montent davantage de projets. Parce que ce constat...
Injecter de l'Europe dans les démarches.
Exactement. Le constat qu'il n'y avait pas assez d'Europe, en fait, nous, on l'a fait dès le départ de la candidature. On l'a fait avec tous nos collègues qui travaillent dans la culture, en disant, voilà un des objectifs de cette candidature. Donc, bon.
Alors, à ce moment-là, donc, beaucoup pensaient, ouais, moi le premier, comme d'habitude en cas de fiasco, le mouvement engagé prend fin. Eh bien non, il s'est poursuivi. Alors, quelles sont les raisons, peut-être européennes et locales, qui ont fait que ça s'est perpétué?
Alors, une capitale européenne de la culture, comme son nom l'indique, c'est une capitale, c'est-à-dire une ville. Nous, la particularité, c'est que ça n'a pas été ça. Ça a été d'abord une rencontre entre Sète, son territoire, Montpellier et son territoire. Et ensuite, se sont agrégés autour de ces deux premières communautés de communes et agglomérations et métropoles, d'autres villes. Et on s'est retrouvé avec un territoire de près de 900 000 habitants, autant de collectivités territoriales, autant de partenaires, qui se sont engagés non seulement à réfléchir avec nous, mais qui ont engagé financièrement des moyens, qui ont engagé des intentions en nous disant bah, « Nous, la capitale européenne de la culture, pour nous, c'est une manière de travailler sur l'aménagement du territoire, de travailler sur les transports, de travailler sur les politiques d'accès à la santé, à l'éducation, etc. etc. » Donc, ils ont commencé à utiliser finalement ce que pouvait être une capitale européenne de la culture pour faire de la politique publique. Et quand on se lance dans la construction d'une politique publique, il n'y a aucune justification de s'arrêter tant qu'on n'a pas obtenu des résultats. Donc, ils ont D'accord. juste dit,
Donc, ça,
continuons.
On peut dire que c'est un choix politique. Hein,
complètement.
Quelle de force, bon, ce même objectif dans d'autres domaines, hein, les transports collectifs, l'économie notamment. Mais il y avait également la capacité que le fonctionnement même de l'Union européenne dans la suite de l'histoire vous donnez, quoi. Ça, c'est mal connu, je pense, que, voilà, qu'on n'attendait pas de vous que vous rangiez vos dossiers et vous reveniez dans vos activités respectives ailleurs, quoi.
Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, une capitale européenne de la culture en France, parce que c'est différent selon les pays, c'est un budget qui tourne autour des 60 millions d'euros. Et les villes qui sont sélectionnées ont entre 4 et 6 ans pour réunir cette somme. L'Union européenne, là-dedans, finance à hauteur de 1,8 million.
Ah,
donc ça laisse vraiment dire que, en gros, si les collectivités territoriales ne sont pas engagées pleinement...
Et mettent au pot fortement...
Et donc trouvent des moyens pour associer notamment les entreprises, parce que ça ne se fait pas que avec des subventions, ça se fait aussi via du mécénat, ça se fait par des partenariats, etc., etc. Donc pour arriver finalement à collecter et associer les gens, il faut que le territoire soit pleinement derrière. C'est souvent une difficulté qu'on constate chez d'autres, hein. C'est ils partent avec un projet qui est très ambitieux. Au moment de réunir les partenaires autour de la table, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc moi, en tout cas, je souhaite à ceux qui ont été sélectionnés d'aller le plus loin possible. Mais c'est souvent difficile. On a pu le constater, notamment à l'époque de la candidature du Luxembourg ou à l'époque de la candidature en Roumanie, où concrètement, le tour de table, c'est compliqué.
D'accord, ça on a compris parce que c'est décisif. Alors, pour reprendre les mots d'un communiqué qui avait été publié, alors comment l'aventure a-t-elle continué? Donc, ça redémarre, il y a une décision, il y a un cadre européen qui le permet, il y a un élan qui a été donné, et il y a bon, les élus concernés, ou les différents partenaires, consulaires, économiques ou autres, hein, disent, unanimement, je crois savoir, en tout cas très majoritairement, on continue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au début de 2024, hein. Nous sommes à l'automne 2025. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, là, et quelles étaient, je dirais, vous l'avez évoqué, l'acquis, les ressources de tous ordres qui vous ont permis de continuer la route?
À l'issue donc, du deuxième tour, on a pris un temps de réflexion, notamment Sophie Léron et moi, on a essayé de réfléchir à ce que pouvait être la suite, puisque... On s'était quitté le soir de la nomination de Bourges avec un peu des larmes dans les yeux, mais avec quand même l'idée qu'on avait fait un super boulot, les élus nous l'avaient dit. Et on s'est dit, bon, on va quand même, on va pas leur dire, on va pas juste leur envoyer une lettre d'adieu, on va essayer de leur proposer non seulement un bilan, mais aussi une perspective. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire en n'étant pas une capitale européenne de la culture, donc avec des moyens qui sont forcément beaucoup plus limités, mais en retenant l'essentiel. Et on a réfléchi comme ça pendant 6 mois et on est parti autour de, pour nous, ce qui était un des enjeux fondamentaux de la capitale, c'était cette idée d'activation du territoire. Comment On voit des potentiels quand on se promène comme ça.
Il y a de l'existant qui peut.
Il y a un existant ou il y a eu un existant. Puis, oui. Des fois, c'est il y a eu un existant si on pense au patrimoine, ou il y a de l'existant et il manque un petit truc. Il manque quelque chose pour y aller. Il manque un acteur pour le faire vivre. Il manque un artiste pour le sublimer. Donc c'est ça qu'on a constaté. En fait, on s'est dit, on parle toujours de la richesse de ce territoire, mais on voit aussi que ce potentiel, il n'est pas du tout à la hauteur de nous, nos espérances. Donc, on est parti de ça, et on s'est
ça,
dit, voilà le projet.
Coupe, la connaissance intime de ce potentiel, il résulte bien de la préparation de la compète. Là.
Complètement.
C'était, voilà, c'est...
Et puis, de notre connaissance, parce que, comme vous l'avez dit en introduction de cette émission, moi, par exemple, ça fait très longtemps que je vis sur ce territoire, donc j'ai eu l'occasion de le sillonner, j'y ai fait une partie de mes études, j'y ai travaillé, donc c'est quelque chose que...
Vous voilà. Ne vivez pas de la Lune, bien sûr.
Voilà, c'est bien ça, sûr. C'est vraiment un territoire que je connais.
Alors, quel rôle fécond dans cette période ont joué notamment, c'est moins connu, les résidents d'artistes, les expérimentations qui, de début 2024, bon, au printemps, là où... ou à l'amorce de l'automne, sont venus, je dirais, activer ces différents potentiels que vous venez d'évoquer.
Alors nous, on est parti de ça. On est parti de cette idée que quand on arrive dans un espace, ça peut être une abbaye, ça peut être une rivière, ça peut être un bord de plage, ça peut être une friche industrielle.
Donc, pas nécessairement des éléments... culturel stricto sensu.
Exactement. Après, la culture au sens large, oui. C'est finalement tout ça aussi. Mais non, pas des, en tout cas, pas des institutions culturelles identifiées. Donc, on arrive dans ces lieux-là et tout de suite, il y a quelque chose qui se déclenche de l'ordre de l'imaginaire. Tout le monde fait cet exercice-là. On se dit, quand on rentre dans un château, on imagine la vie qu'il y a pu avoir dans ce château. Quand on rentre dans une église, on imagine tout ce qui a pu s'y passer, les cérémonies, mais aussi des événements historiques tragiques ou... peu importe, notre imaginaire se met en marche. Et c'est partant de cette évidence qu'on s'est dit, ben voilà, nous, M28, on pourrait, sur chacun des lieux qu'on va choisir, inviter un artiste à poser son regard et à écrire une partie de l'histoire. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a lancé des appels à résidence dans lesquels vraiment beaucoup d'artistes ont répondu. On a systématiquement fait des jurys dans lesquels il y avait une partie de l'équipe qui était composée de l'équipe de M28 et l'autre qui était systématiquement liée au territoire dans lequel nous travaillons. Et puis nous avons...
Qu'il s'agisse d'élus ou d'acteurs culturels ?
D'acteurs culturels. Le principe, ce sont des acteurs culturels.
Donc c'est entre professionnels de la culture que les jurys ont travaillé, bon, qui a ensuite des validations.
Entre professionnels, ouais. Souvent de la culture, mais on a élargi aussi à d'autres regards. Ce n'était pas forcément une position d'expertise. Il fallait qu'il y ait une connaissance, mais elle pouvait ne pas être forcément culturelle. Elle pouvait être aussi liée à la connaissance du territoire, justement. Donc ces jurys se sont réunis, on a sélectionné des artistes, et puis ensuite, ils ont commencé à travailler dans tout un tas de directions, les arts visuels, le spectacle vivant, la musique, la photographie, et on se retrouve finalement avec un programme qui est très riche et qui va être essentiellement fait de création.
On va y venir, donc c'est bien cette mise en route, hein, ou cette maturation, ou cette matrice, je ne sais pas comment l'appeler, du début 2024 à l'été 2025, qui a produit bon, ce dont on va parler maintenant, donc les chemins du vivant. Donc je l'ai dit, un ensemble de rendez-vous très divers, on va y revenir, programmé du 26 septembre au 5 octobre, sous l'intitulé « Événement au singulier 25 ». Alors, c'est très vaste, c'est assez complexe, donc on va l'aborder sous divers angles, en gros les généralités, il y a une langue autour des lieux, du spatial, du territoire, et il y a un angle aussi, bien entendu, sur les différents genres ou formes d'expression qui sont proposées. Alors, quelles sont les caractéristiques de la manière dont la programmation a été élaborée, notamment dans le prolongement de ce qui avait été fait antérieurement, dans la méthode de travail collective pour produire un programme partagé?
Alors, le premier point, et c'est, j'espère, ce qui va permettre d'aider les auditeurs à se repérer dans notre événement, ce sont les 7 points. Cette balise que nous avons posée sur le territoire, il y a le canal de Lunel, le Sana au Gros-du-Roi.
Sana, c'est l'ancien sanatorium.
Exactement.
Hein.
les sources du Lez, la Mausson, l'abbaye d'Agnan, les chais du Moulin à Sète et Château-Laurent à Agde. Ça, ce sont nos 7 points de départ. Voilà. Et on a, dans ces lieux-là, fait les résidences dont je parlais et positionné des artistes qui vont proposer, des choses. Ça va d'une... par exemple, on va avoir une proposition dans le domaine architectural, pictural et de l'ordre de l'écriture au Sana. Sur l'abbaye d'Agnan et Château-Laurent, on a à la fois des déambulations qui vont se produire avec des compagnies de danse, avec des ensembles musicaux. On va avoir des gens qui ont travaillé sur la dimension visuelle, notamment des expositions. Il y a une superbe exposition qui a commencé et qu'on peut voir aussi à Montpellier avec The Eye, qui est déjà on peut le voir depuis le 20, et puis il y aura des vernissages à partir de la semaine prochaine. Tout ça, ce sont des événements qui sont à l'intérieur de M28 et qui sont autant de repères. Donc, premièrement, une entrée par le territoire, et ensuite des entrées qui sont plutôt liées à des disciplines, et toujours avec cette idée de croisement. Par exemple, à 7, on aura le week-end prochain, pas celui qui vient, mais le week-end du 5, des croisements entre la nourriture, l'art culinaire, on pourrait dire, et le cinéma, par exemple. Entre la photographie et la musique.
Alors ça, le côté, bon, c'est un de vos mots, transversal ou pluridisciplinaire, ça aussi, c'est une des marques, hein, des caractéristiques, hein, de ce travail-là.
Oui, complètement. Après, il y a certaines choses qui sont aussi inspirées d'expériences esthétiques qu'on a pu vivre. Pour ceux qui connaissent, il y a eu une époque du Festival d'Avignon qui promouvait cette idée de rencontre, les sujets à vif. Hein. On invite deux artistes à travailler pendant une semaine, 15 jours. Ils ne se connaissent pas avant et on voit ce que ça produit. Bon, ça, c'est la forme brute. Nous, on a voulu une forme plus élaborée, plus longue, un temps de travail plus soigné. Et donc, les artistes viennent sur un territoire, ils se choisissent. Souvent, ils se sont choisis au moment de la candidature.
Ceux qui vont pouvoir travailler.
Voilà, on leur a dit, est-ce que vous connaissez, voilà, par exemple, vous êtes dans le domaine du cinéma, est-ce que vous connaissez un chef ? Vous êtes dans le domaine de la musique, est-ce que vous connaissez une compagnie de danse, etc. Est-ce que vous êtes capable de proposer, finalement, des projets où les choses se croisent ?
J'imagine que ça a dû produire une espèce d'excitation, enfin d'emballement, ou de voilà, parce que c'était bon, une espèce de pari. Bon, on prend quelques précautions pour que ça débouche, hein, mais là aussi, ça a sorti un certain nombre de ces artistes, peut-être de leur précaré habituel, quoi.
Et surtout sur des lieux qui n'avaient pas l'habitude d'accueillir de résidence. C'est-à-dire que concrètement, quand on fait une résidence d'habitude dans un théâtre ou dans un lieu, je pense à la Chartreuse, par exemple, à Villeneuve-les-Avignon, ben on a déjà des espaces pour loger les artistes, on a des espaces pour qu'ils travaillent. Nous, il fallait qu'on réunisse tout. Voilà. Donc, il fallait qu'on trouve un logement, de quoi les nourrir, de quoi les déplacer, etc. Donc, c'était tout de suite des questions qui sont à la fois très simples et très complexes à régler. Et je vous donne juste un chiffre. Le premier appel à résidence, on était inconnus, hein, parce que normalement, dans les appels à résidence, il y a des institutions qui sont repérées par les artistes. Donc les artistes regardent et ils sont derrière leur clavier à attendre le bon moment. Nous, à notre premier appel à résidence, on a eu plus de 90 candidatures et je dirais au moins 20% de candidatures internationales et de qualité.
Et on a été extrêmement surpris. Combien là, sur cette presque centaine ?
La première, on a retenu 3 artistes.
Ah donc, hein, il y avait quand même une émulation.
Il y avait des très très belles propositions. Souvent d'ailleurs, on a dit ça à des artistes en leur disant, écoutez, c'est affreux, il faut qu'on en choisisse 3. Mais en fait, on garde votre dossier parce qu'on aimerait vraiment continuer à travailler avec vous.
Trouver une autre occasion de les solliciter.
Exactement.
D'accord. Alors, est-ce que cette méthode-là, ça a produit ce que j'appellerais une espèce d'ensemencement du territoire ? Donc, il y avait des choses qui pouvaient germer, hein, vous les avez évoquées, des potentiels. Et est-ce que cette méthode-là, résidence, alliée, si j'ai bien compris, mais vous distinguerez ça, c'est nécessaire, des expérimentations qui ont été, je dirais, le cheminement vers les chemins dont on va parler. Voilà, la marche là, pendant, je ne sais pas, un an et demi, qui a, j'imagine, par étapes successives, a produit quelque chose d'inédit dans sa diversité, son ampleur et encore une fois dans son enracinement.
Moi, je le constate déjà, en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez dans le programme, vous allez voir, par exemple, que le conservatoire de Sète et le conservatoire de Montpellier, la Cité des Arts, ont développé un projet en commun. Pour nous, l'équipe de M28, c'est clairement quelque chose qui a été encouragé par cette association. Ensuite, vous avez La Fenêtre, qui vient d'ouvrir son espace sur la place de la Comédie, qui a travaillé avec le MIAM.
Voilà, la fenêtre dédiée aux arts graphiques, pour faire simple.
À Montpellier.
À Montpellier.
Et qui fait un projet qui est relié au MIAM, à Sète. Ensuite, on a cette exposition qui s'appelle Flow et qui circule sur tout le territoire, Château-Laurent, Montpellier, etc. Pareil, c'est une association qui avait fait une série d'expositions à Sète. Et puis maintenant, ils ont eu accès, comme ça, à un territoire assez immense. Je pourrais multiplier les exemples. Par exemple, La Bulle Bleue, qui est cette compagnie qui travaille avec des personnes en situation de handicap, qui est basée à Montpellier, exactement, qui va présenter un spectacle au CHU à Montpellier. C'est inédit. Le CHU fait partie de M28 et ils vont accueillir un spectacle dans leur mur. Et ça, c'est vraiment, je pense, une expérience assez formidable que j'invite tout le monde à vivre. Mais ce spectacle va être également à Sète et puis à Frontignan. Donc on a vraiment une circulation. Souvent on dit aux artistes, il faut que vous bougiez. Bah, c'est très compliqué de bouger si on n'est pas encouragé à le faire. Je crois qu'M28, c'est ça. C'est un catalyseur du mouvement.
Très bien. Alors bon, je pense qu'on a compris la diversité, bon, ce que j'appelais l'effervescence de l'événement 25. Le temps passe. Je vous propose donc de mettre des points de suspension et de vous interroger à propos de votre casquette, donc la direction du théâtre La Vignette. D'abord, peut-être rappeler aux auditeurs, certains le connaissent à coup sûr, quelle est la singularité de ce théâtre ? En quoi se distingue-t-il des autres scènes locales ?
Eh bien, c'est un théâtre qui se situe dans une université, et c'est en quoi, non seulement il se distingue des autres théâtres de Montpellier, mais il se distingue de quasiment tous les théâtres en France. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir un théâtre qui fait une programmation professionnelle au sein d'une université. Parce que c'est ça qui se passe à La Vignette. Ce n'est pas des spectacles d'étudiants pour les étudiants. Ce n'est pas des spectacles professionnels pour les étudiants. Ce sont des spectacles professionnels pour tout le monde. C'est-à-dire qu'évidemment, vu notre situation, beaucoup d'étudiants fréquentent ce théâtre, mais il est ouvert absolument à tout le monde. Et je dirais la philosophie, l'esprit qui anime ce lieu, c'est l'esprit de Paul Valéry, c'est-à-dire un esprit qui attache beaucoup d'importance à la recherche, à la transmission des savoirs, à la rencontre, à l'altérité. Et voilà, c'est toutes ces valeurs-là qu'on porte
donc,
à La Vignette.
Donc, c'est une cohérence avec la vocation d'université, de sciences humaines, et ça, ou qui travaille sur ces champs-là. Quoi, hein.
Complètement, d'accord. C'est ça. C'est la particularité de Paul Valéry d'être une université.
Alors, vous allez présenter ce jour-ci votre programmation pour 2025-2026. Et en lisant le texte introductif que vous avez signé, vous dites que vous allez reprendre dans cette programmation des actes de rupture avec le flux informationnel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui a déterminé, je dirais, ce choix-là ?
Bah, les flux informationnels, c'est ce qu'on subit absolument toute la journée, notamment sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes d'information. On s'aperçoit que finalement, ce discours qui transite par ces flux informationnels est un discours qui ne dit plus rien. Les gens reçoivent des mauvaises nouvelles comme ça à longueur de journée, mais ça finit par, à part les déprimer, ça produit rien. Ils sont totalement inactifs, ils n'ont pas de ressaisissement d'eux-mêmes, finalement. Et on pense à La Vignette que ce qui est important, c'est on se réunit dans une salle, un théâtre, on est un certain nombre, on va prendre une heure et demie, on va poser son téléphone, on va l'éteindre, on va écouter une personne qui est réellement en face de nous, c'est-à-dire qui prend le courage de parler en face, en réel, en face de nous, de prendre la parole, on va écouter ce qu'elle nous dit et on va y réfléchir. Et ça, réfléchissez dans l'expérience que vous faites au quotidien, si ça vous arrive souvent, vous allez voir que c'est rarissime. Oui, en fait, c'est devenu rarissime.
Voilà,
on n'écoute absolument personne. On a une espèce de fond où ça ressemble à des paroles, mais ce sont des paroles qui sont vidées de sens. La parole pleine, elle est rare. Et je pense qu'au théâtre, on peut encore y avoir accès.
Alors, on pourrait développer, mais hein, le moment dont nous disposons s'achève. Donc, Je rappelle donc les sources d'information pour les deux sujets que nous avons évoqués. Pour les chemins vivants, le site montpellier2028collet.eu, tient donc, EU comme,
Europe.
Comme l'Europe. Et pour le Théâtre de la Vignette, le site de www.théâtrelavignettecollet.fr. Eh bien, Nicolas Dubourg, merci et à une prochaine fois.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.